dossier du jour avec Granit et Marbre Mourier, plan de cuisine et salle de bain. Fabricant depuis 1860. Exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourier.fr.
Bonjour à tous et à toutes. Sans entrer dans une bataille de chiffres, car s'il y a bien quelque chose de difficile à évaluer, c'est le nombre de femmes et d'hommes victimes de violences au sein du couple. Violence conjugale, quel dispositif en creuse pour vous aider? Que nous dit la loi? Nous en parlons avec Agnès Zeppa, déléguée aux droits des femmes et à l'égalité, accompagnée de Bruno Sauvage, procureur de la République. Je sais que c'est pas facile, mais on a quand même l'habitude de se parler le matin. On se connaît bien, donc nous attendons vos questions, vos commentaires, mais aussi vos témoignages, notamment si vous avez réussi à sortir de cette situation de violence. Je sais, ce n'est pas simple à faire, mais comme d'habitude, je vais vous faire confiance pour intervenir. C'est à ce numéro.
05 55 52 37 38.
Agnès Zeppa, Bruno Sauvage, bonjour.
Bonjour à tout le monde.
Et
bonjour.
Bienvenue sur France Bleu Creuse. Agnès Zeppa, tout d'abord, lorsque nous parlons de violence conjugale, nous allons penser tout de suite aux violences physiques. Nous allons juste faire un clin d'œil pour aujourd'hui, parce qu'il va être plus particulièrement question des violences physiques, qui regroupent déjà beaucoup de choses, mais il y a aussi d'autres formes de violences.
Oui, absolument. Effectivement, on parle de violences psychologiques, on parle de violences verbales, d'insultes, de violences aussi administratives. Dans certains cas, puisque parfois les agresseurs peuvent utiliser tous les moyens qui sont à leur pouvoir pour en fait effectuer une emprise sur la victime, dont le retrait des papiers, l'emprise sur le compte bancaire, enfin tous les éléments qui lui permettent d'asseoir sa domination sur la victime. Et à ce sujet, du coup, j'en profite justement pour faire la distinction entre conflit conjugal et violence conjugale. Quand on parle de violence conjugale dans la façon dont les partenaires le prennent en charge, on parle d'une situation où il y a une personne qui domine l'autre. La peur est toujours dans le même camp et la domination est toujours dans le même camp. Par contre, quand les époux sont à égalité, on va dire, devant la violence et devant la peur, on parle plutôt de conflit conjugal. Voilà.
Bruno Sauvage, monsieur le procureur de la République, du côté de la loi, à quel moment on appose violence conjugale?
Comme tout délit, il faut qu'on en soit saisi. Donc, ouais. C'est le but aussi de l'intervention. Je pense aujourd'hui de Mme Zeppa et de moi-même, c'est sensibiliser tout le monde sur ce phénomène qui est quand même assez important en Creuse. Il faut que je sois saisi. Donc, soit directement on fait un déplacement, on va au niveau du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Il y a deux façons. Soit on dépose plainte, ou soit on fait ce qu'on appelle une main courante, puisque maintenant, désormais, la gendarmerie peut aussi accueillir les mains courantes. Ces mains courantes sont transmises ensuite par la suite donc au procureur qui peut diligenter une enquête judiciaire. Ça, c'est le premier point. Et après, parfois, on a aussi des signalements, ce qu'on appelle les articles 40, c'est-à-dire des administrations ou différents partenaires qui nous signalent des cas ou de suspicion de violence conjugale, c'est-à-dire que là, je diligente une enquête par la suite.
Alors, peut-être déjà un point pour rassurer ces personnes, hommes comme femmes, victimes de violences. Aujourd'hui, les services de commissariat, de gendarmerie sont formés également pour accueillir ces personnes. Il y a quelques années, c'était un peu plus compliqué.
Alors, il y a des formations, effectivement, au niveau de chaque service de sécurité intérieure, police, gendarmerie. Ils essayent de faire du mieux possible. Souvent, ce qui me remonte, et pour en parler en toute transparence en différentes réunions, c'est que parfois, il y a un temps d'attente qui est assez long. Mais oui, mais parce que dans les commissariats, dans les gendarmeries, il y a pas mal de personnes qui viennent déposer plainte. Le premier arrive. Après, parfois, ce qui est possible de faire dans les cas les plus extrêmes, c'est prendre rendez-vous, effectivement, avec un policier ou un gendarme. On convient d'une heure, d'un jour de rendez-vous, et ça permet, effectivement, de passer beaucoup plus rapidement. Mais, effectivement, aujourd'hui, il y a une certaine formation. Alors, peut-être que certains diront, j'ai pas eu l'écoute escomptée par rapport, éventuellement, à un assistant social, etc. Mais ils sont policiers ou gendarmes, ils ont une formation pour poser les bonnes questions, en tout cas, pour matérialiser l'infraction, parce que mon travail, ces représentants de la société, c'est effectivement de matérialiser l'infraction et rappeler à tout le monde que le bénéfice du doute profite à la personne qui est soupçonnée. Alors c'est peut-être difficile à entendre.
Oui.
Mais c'est ça, la loi dit ça. Donc, et c'est ce qui explique parfois que les plaintes des personnes soient classées sans suite, non pas parce qu'on ne les croit pas, mais parce que dans le dossier, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour, un, pouvoir renvoyer éventuellement devant le tribunal correctionnel, et deux, pour obtenir une condamnation avec éventuellement une relaxe.
N'oubliez pas, hein, vous êtes d'accord, pas d'accord avec les propos de nos invités. Vous aussi, vous pouvez apporter votre opinion. 05 55 52 37 38, opinion, question ou demande de conseil. Parce que Agnès Zeppa, Bruno Sauvage vient de nous l'expliquer, il y a une première démarche à faire, celle d'aller déposer plainte ou de déposer une main courante. Et on le sait, ça c'est difficile à faire.
Oui, oui, tout à fait. C'est extrêmement difficile pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure. Il y a un système, effectivement, d'emprise qui se met en place. Donc, la victime, elle est complètement dévalorisée. Elle a perdu l'estime d'elle-même. C'est extrêmement difficile, à partir de là, de faire des démarches. Alors, la plainte peut être une première démarche, mais il y en a d'autres aussi qui peuvent être faites. C'est d'aller voir une association. Il faut savoir qu'en Creuse, on est bien pourvu sur ce plan-là. On a plusieurs structures associatives et puis on a aussi le conseil départemental qui interviennent dans ce domaine, qui apportent chacune dans leur domaine de compétence un accompagnement, une aide aux victimes. On a des associations qui font de l'écoute, l'accueil, le primo accueil, la personne qui va déjà entendre la parole et qui va déjà croire cette parole. C'est extrêmement important, ça permet déjà de mettre des mots sur cette violence. Également de l'accompagnement aux procédures, de l'accompagnement aux démarches, de l'information juridique. On a des professionnels formés, j'insiste, parce que là, en plus, on a la chance vraiment d'avoir des gens qui sont extrêmement pointus sur ce domaine-là et qui sont capables, effectivement, de recevoir les victimes et de les accompagner.
Et nous aurons l'occasion, au cours de cette émission, de rappeler, effectivement, tout le dispositif qu'il y a en Creuse. En revanche, de façon très spontanée à l'un comme à l'autre, on parle de victimes, mais ces femmes ou ces hommes qui vivent dans le quotidien de violences conjugales, perçoivent-elles bien qu'elles sont une victime ?
C'est toute la difficulté. Par principe, vous l'avez dit, ça se passe dans la sphère familiale. Donc, qui dit sphère familiale, généralement, pas de témoin. Donc, il y a la personne qui se dit victime, la personne qui est accusée par la victime d'être l'auteur des violences, et parfois, on n'a pas de témoignage. Donc, et après, comme l'a dit Mme Zeppa, il y a aussi certaines formes d'emprise, ce qu'on appelle le dominant dominé. En tout cas, pour ma part, sachez que c'est la raison par laquelle on a décidé tous les deux de venir sur ce plateau, c'est que les violences conjugales en Creuse, je suis arrivé en 2018, ça fait partie de mes priorités de politique pénale depuis le début de l'année.
Il y a des affaires fréquentes ?
Alors, en Creuse, pour aller dans les chiffres, on sait très bien qu'on a en gros 350 affaires par an en Creuse. On a une augmentation, voilà, cette année. Alors, parce que peut-être on en parle beaucoup plus aujourd'hui, peut-être que les gens font plus la démarche d'aller déposer plainte ou qu'on fait des signalements par différentes administrations. Donc en gros, on est pratiquement à plus de 20% de hausse de violences conjugales. Mais voilà, c'est une priorité de politique pénale. Donc forcément, je vais dire quelques chiffres. Cette année, il y a eu 4 fois plus de contrôles judiciaires par rapport à des faits de violence conjugale. On en verra après l'arsenal juridique et judiciaire derrière. Donc c'est une situation qui est largement prise en compte par le parquet. Et élément aussi important, c'est qu'on le verra certainement au cours de cette discussion et échange avec les auditeurs, c'est qu'il y a aussi aujourd'hui au niveau judiciaire un dispositif qu'on appelle le téléphone grand danger, qui existe maintenant légalement sur la France depuis une loi du 4 août 2014, qui permet d'éviter des personnes qui ont déjà fait l'objet de violences, je dirais après le cadre de la loi, de disposer d'un dispositif de téléprotection qui permet d'alerter beaucoup plus rapidement les forces de sécurité et qui assure peut-être davantage la sécurité de la personne.
La priorité à vos appels au 05 55 52 37 38, mais aussi à vos messages sur la page Facebook de France Bleu Creuse. Et en les découvrant ce matin, je me suis dit qu'il y avait quand même des femmes et des hommes qui étaient relativement bien informés, notamment le message de Margaret qui nous écrit « La première gifle est une gifle de trop. Idem pour les insultes quotidiennes et lorsqu'il y a des enfants, pire encore. Demandez de l'aide, les filles, et éloignez-vous de ces types-là. » Qui répond, qui échange avec Margaret, finalement, c'est vrai, la première gifle est de trop, Agnès.
Absolument, absolument. On ne doit pas supporter la moindre violence. C'est absolument pas acceptable. Cependant, ce qui se passe souvent, c'est que justement, la violence psychologique va venir avant la gifle. C'est ça qui fait que la victime, à un moment donné, va accepter cette gifle. Lorsque la violence, elle arrive très tôt dans le couple, on voit souvent que la victime va partir beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite. Voilà, donc finalement, ce sont des situations qui ne vont pas perdurer. Par contre, quand il y a effectivement cette emprise qui s'instaure avant la gifle, c'est là où malheureusement la victime se retrouve à accepter cette violence. Mais on est bien d'accord, ce n'est absolument pas acceptable.
Ce à quoi Natacha répond, facile à dire, hein, de dire demandez de l'aide et éloignez-vous. J'en parle en connaissance de cause. Et malheureusement, ce n'est pas si simple, surtout quand il y a des enfants. Oui, bien évidemment, Bruno Sauvage, c'est difficile de partir comme ça de sa maison avec ses enfants.
C'est sûr, et c'est tout la difficulté du débat. Après, pour les cas les plus graves, souvent, les services de sécurité intérieure, police, gendarmerie, sont souvent appelés la nuit ou en soirée pour des violences conjugales. Parce qu'il n'y a pas que la démarche d'aller au commissariat. Parfois, on fait le 17, appel secours, je déclare avoir été victime de violences conjugales, une baffe, etc. Donc les policiers ou les gendarmes interviennent au domicile. Généralement, ils se retrouvent avec les deux parties. Madame qui va dire, voilà, monsieur m'a frappé. Mmh. Le plus important, je demande aux gendarmes et aux policiers de bien vouloir constater, au moins physiquement, sur la première intervention qui est aussi important, est-ce qu'il y a des traces ? Parce qu'entre le moment où la personne dit j'ai été frappée, qu'elle va aller éventuellement ou qu'elle ne va pas aller, parce que parfois la personne ne veut pas aller voir le service des urgences ou ne pas aller voir le médecin, est-ce qu'il y a une présence de traces ? Parce qu'on se retrouve avec des situations, une parole d'une dame qui dit j'ai reçu une gifle, et un monsieur qui la plupart du temps dit je ne l'ai pas frappé. Et après c'est toute la difficulté de la charge de la preuve, parce que parfois il n'y a aucun témoin, c'est parole de l'un et contre l'autre, sans aucune trace, sans rien du tout, ce qui explique que parfois, le dossier est classé sans suite. Non pas parce qu'on ne croit pas la dame, c'est parce que moi je n'ai pas de preuves dans le dossier suffisantes pour pouvoir éventuellement ne serait-ce que le renvoyer devant un tribunal correctionnel.
Agnès Zeppa.
Oui, alors vous avez parlé effectivement du fait de partir avec ses enfants, démarche difficile. Je voudrais quand même signaler que effectivement dans le département, on a les dispositifs qu'il faut pour pouvoir héberger les personnes dans l'urgence, mais également dans une temporalité un peu plus longue. Les forces de l'ordre elles-mêmes peuvent déclencher une mise à l'abri. Lorsque justement elles interviennent la nuit ou le week-end, si la victime demande une mise à l'abri, les forces de l'ordre peuvent faire cette mise à l'abri grâce à en fait des partenaires, des taxis et des hôtels qui sont partenaires dans l'ensemble du département que je remercie.
Et pourquoi c'est la victime qui quitterait le domicile, Agnès ? Pourquoi elle a rien fait ? Elle a subi.
Alors, grande question, il faut savoir que selon les cas, les victimes peuvent aussi souhaiter partir, parce que le domicile, c'est un lieu qui n'est plus, où elles ne se sentent plus en sécurité. Lorsque, en revanche, les violences sont extrêmement graves et avérées, là, je laisserai monsieur le procureur en parler, mais effectivement, là, c'est vraiment l'auteur qui part, qui est mis en garde à vue, etc. Mais on n'a pas toujours tous les éléments qui permettent de faire sortir l'auteur du domicile. Dans ces cas-là, on a effectivement de l'hébergement temporaire, mais également de l'hébergement très adapté en appartement, et puis tous les dispositifs qui sont possibles. Il faut appeler donc les forces de l'ordre, ou la nuit et les week-ends, le 115, autrement.
La suite de cette conversation et la réponse de Bruno Sauvage, procureur de la République, dans quelques instants. N'oubliez pas, cette émission, elle est pour vous. 05 55 52 37 38. La page Facebook de France Bleu Creuse également pour vous. Vous avez besoin d'un renseignement, vous avez besoin de vous assurer d'un point particulier, ou bien vous souhaitez tout simplement commenter. 05 55 52 37 38. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around.
Kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one. they're going to miss in lots of ways.
L'écoute du dossier du jour. Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. Il est question ce matin des violences conjugales. Avec pour échanger avec vous Agnès Zeppa, déléguée aux droits des femmes et à l'égalité, Bruno Sauvage, procureur de la République. Vos interventions, c'est à ce numéro.
France Bleu Creuse, le dossier du jour.
Bruno Sauvage, nous évoquions juste avant le disque le fait que un des deux, soit la femme, c'était compliqué de partir, fallait emmener les enfants. Souvent, monsieur reste dans le logement et c'est vrai que spontanément, je vous ai dit, mais c'est pas juste quoi. C'est pas juste. C'est vrai qu'on peut pas mettre tout le monde à la rue, mais comment on peut agir au mieux, monsieur le procureur, dans ce cas-là?
Alors, dans les procédures, je vous disais tout à l'heure, 4 fois plus de contrôle judiciaire. Qu'est-ce que c'est qu'un contrôle judiciaire? C'est-à-dire que une victime dépose plainte, homme ou femme, contre son conjoint. Elle va être placée en garde à vue. On va faire tous les actes de vérification, l'enquête de voisinage, faire une réquisition judiciaire pour les blessures constatées par un médecin. Et les différentes parties vont être entendues. S'il y a suffisamment, effectivement, d'éléments dans la procédure pour impliquer le mis en cause dans les violences conjugales. Je ne vais pas revenir sur les différentes qualifications en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail, etc. Ce serait beaucoup trop complexe. Je fais déférer cette personne devant moi avec son conseil et je vais demander donc qu'elle soit placée avec un contrôle judiciaire, c'est-à-dire avec certaines obligations et interdictions jusqu'à la date de jugement, qui est généralement entre 2 mois et 4 mois, où on va interdire tout contact avec la victime. Ça, ouais. C'est le premier point. Tout contact, ça veut dire quoi ? Par SMS, par téléphone, par lettre, etc. Et surtout l'interdiction de paraître au domicile. Interdiction de paraître au domicile, c'est pas simplement venir au domicile, mais c'est éventuellement se stationner pas très loin d'un domicile pour quelque part faire une certaine forme de pression sur la victime. Et la plupart du temps, donc par ces deux interdictions obligations, c'est ce qu'on appelle l'éviction du conjoint violent. C'est-à-dire qu'on va dire, monsieur, vous ne pouvez plus rester dans le logement, et vous partez. Et dans ces cas-là, il y a aussi effectivement des logements qui peuvent être mis dans le cercle familial ou par le biais d'associations pour qu'ils puissent avoir un logement et ne pas se retrouver non plus à la rue le temps effectivement qu'ils comparaissent devant la justice pour répondre de ces actes.
Alors là, je m'adresse à Isabelle, notre chargée d'accueil. Visiblement, nous avons un appel en attente, mais qui n'est pas tout à fait parvenu jusqu'à nous. 05 55 52 37 38, si vous souhaitez intervenir, questionner, témoigner. Moi, j'imagine vraiment la grande crainte que ça doit être, Agnès Zeppa, de partir comme ça, de passer au-dessus de la honte ressentie, parce que on n'a pas forcément la notion qu'on est une réelle victime.
Alors la notion qu'on est une victime,
c'est pas facile de faire comprendre aux autres.
Oui, malheureusement,
je suis battue.
Malheureusement, je pense que les victimes en sont pleinement conscientes. En revanche, ce qui est très difficile, c'est effectivement de pouvoir faire sortir cette information et informer notamment ses proches. Parfois, on voit que les proches, souvent les agresseurs, en fait, ils ont une stratégie de pouvoir conquérir en fait l'ensemble des proches de la victime, d'être quelqu'un de très charmant, de voilà, sans aucun problème. Et donc, parfois, les proches de la victime ont du mal à la croire. C'est pour ça que c'est très important. Voilà, parfois, les gens me demandent qu'est-ce qu'on peut faire. Quand on a le témoignage de quelqu'un qui dit être victime, déjà la croire. C'est très très important. Croire ce qu'elle dit, parce que ça va être déjà le premier pas pour elle vers une reconstruction.
Alors je vous livre, nous venons effectivement d'avoir eu un appel à France Bleu Creuse d'une personne qui ne souhaite pas intervenir, ça peut se comprendre tout à fait, et qui vous dit son mari l'a violentée, elle est donc partie suite à une menace de mort, elle est hébergée dans un hôtel depuis 2 mois, et sa question... Pourquoi son mari est resté chez eux, qui plus est à détruire toutes ses affaires?
Alors, comme vous dites, c'est anonyme, donc je ne connais pas le fond du dossier. Non, alors, non. Ce que je vous disais tout à l'heure, la plupart du temps, c'est l'éviction du conjoint violent. Mais par la loi, il y a aussi parfois que monsieur et madame vivent ensemble, ils ne sont pas déclarés, ils ne sont même pas en combinage ou pas du tout paxés, et que le logement appartient au conjoint violent. Dans ces cas-là, on ne peut pas dire, bah, écoutez, vous allez quitter votre logement, madame va rester dedans, puisque par la loi, c'est monsieur qui est titulaire et propriétaire du logement. Dans ces cas-là, on a affaire, effectivement, il y a un lien qui se crée avec les associations où on trouve un logement. Mais juste pour rappeler encore une différence qui a été abordée par Mme Zepa. Il ne suffit pas parfois que d'une plainte. Parce que moi, j'ai pas besoin de plainte pour se poursuivre. Même quand la personne qui se dit victime, parfois, ça arrive trop souvent, entre l'audience, entre les faits et l'audience, elle va même retirer sa plainte. Ouais. C'est-à-dire, on s'aime, on veut rester ensemble. J'ai même menti au policier, en fait, il m'a pas frappé. Ça arrive quand même régulièrement devant les audiences correctionnelles. Même qu'à retrait de plainte, je continue à poursuivre. Je n'ai pas besoin de la plainte. Élément important, on n'a pas besoin simplement que de déposer plainte. Il y a une autre procédure qui est civile, qu'on appelle l'ordonnance de protection. C'est-à-dire que la personne se dit victime de violence conjugale, ne veut pas déposer plainte pour les raisons qui la concernent. Elle va saisir, soit par le biais de son avocat, ou personnellement, le juge aux affaires familiales, pour prononcer ce qu'on appelle un référé protection, qui se fait dans l'urgence. Elle ramène ses éléments de preuve, ses témoignages, etc. Et le juge aux affaires familiales peut décider, dans ce cas-là, l'éviction et l'interdiction de contact entre l'auteur et la personne pour une durée de 6 mois. Donc vous voyez, il y a toujours un lien entre des fois le pénal et le civil. Il n'y a pas simplement que le pénal, il y a aussi le civil où la personne peut agir.
Alors nous avons eu un message privé sur la page Facebook de France Bleu Creuse. Où je ne vais pas donner les prénoms, je ne vais rien donner du tout. Hein. Un témoignage, une amie a déjà été frappée à 4 reprises, parce que je sais. Elle est insultée régulièrement, bousculée. Son mari lui a fait rompre notre amitié parce que je voulais l'aider. Il l'a menacée de ne plus voir ses enfants. Elle s'est résignée pour eux, de par la peur de les perdre. Quelle solution pour elle? Plus de contact avec l'extérieur, on ne peut même plus se parler ni se voir. Ça aussi, ça fait partie des manipulations de couper toute relation avec toute personne pouvant être un soutien, Agnès.
Ça fait partie de la stratégie, c'est l'isolement également de la victime. Voilà, donc ce qui fait que ça devient très difficile pour elle de sortir de cet isolement. Mais je reviens encore, voilà, elle a toujours.
Qu'est-ce qu'elle peut faire là, concrètement, cette amie?
Cette amie, malgré tout, c'est d'essayer de retrouver malgré tout ce lien. Puisqu'en fait, à chaque fois, les personnes qui vont essayer d'aider, il faut aller à l'encontre de la stratégie de l'agresseur. Donc la stratégie de l'agresseur, c'est de l'isoler. Donc il faut aller à l'encontre.
Mais si vraiment, c'est pas possible, Agnès, on va pousser jusqu'au bout. Parce que là vraiment, je sens bien, moi, dans le message, que l'ami n'a plus accès à son ami. Hein. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Sauvage?
Eh ben, elle peut signaler, hein, tout fait, au niveau du procureur de la République, ou s'il y a vraiment une situation de danger. Donc c'est-à-dire aller signaler les faits, un renseignement, ce qu'on appelle une main courante ou un renseignement judiciaire, ça sera porté à ma connaissance et j'irai faire des vérifications. Si je comprends bien, un isolement, madame se dit victime de violence ou d'emprise, mais elle ne peut pas faire les démarches elle-même. Et dans ces cas-là, il y a des vérifications sur un plan pénal qui peuvent être effectuées, c'est-à-dire soit par les témoignages ou soit les gendarmes vont aller au domicile pour voir un peu ce qui s'y passe. C'est toute la difficulté, mais en tout cas, elle peut signaler les faits à la police, à la gendarmerie ou en m'écrivant directement. Je ferai les démarches nécessaires pour vérifier si les faits sont avérés ou non.
Et à vous qui avez laissé ce message dans les messages privés de France Bleu Creuse, Je vous promets toute confidentialité. Hein. Si vous avez besoin d'une précision de la part soit d'Agnès Zeppa, soit de Bruno Sauvage, je vous promets, ça ne passera pas à l'antenne, mais vous pouvez nous rappeler, tout comme vous pouvez, pour tout le monde, continuer d'intervenir au 05 55 52 37 38.
05 55 52 37 38.
France Bleu.
France Bleu fête avec vous les 75 ans d'Holiday on Ice. Holiday on Ice, plongé dans un incroyable voyage à travers l'histoire du plus grand des spectacles sur glace, avec 40 des meilleurs patineurs artistiques mondiaux et déjà plus de 330 millions de spectateurs à travers le monde. Holiday on Ice, du 28 février au 5 mars 2019, au Palais des Sports Dôme de Paris, puis en tournée dans toute la France. Une tournée France Bleu, toutes les infos sur francebleu.fr.
Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Christophe Agoguet, à Saint-Renan, dans le Finistère, nous dit pourquoi.
Les conseils sur les verres, et j'avoue que les premiers verres qui m'avaient mis, la première réaction, ça a été de me dire, je vois à travers. Donc j'avais vraiment été très satisfait des verres qui avaient été choisis. Là, j'avais été agréablement surpris par ce type de verre. Et après, il y a tout ce qui est traitement anti-reflet, anti-statique, et anti-tache, anti-rayure, qui fait que le verre reste propre et qui fait qu'on voit bien clair à travers. Quoi. Donc moi, je suis pleinement satisfait.
Bertrand Mette, l'opticien Optique 2000 de Monsieur Agoguet, à Saint-Renan.
Pour le confort visuel de nos clients, nous travaillons des verres de dernière technologie issus de laboratoires de renommée mondiale. Et Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, donc nous gérons tout pour nos clients.
Alors, monsieur Agoguet, content d'Optique 2000 ?
Oui, je suis très satisfait et de plus, il s'occupe de tous les papiers pour moi.
Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous.
Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien.
Bonjour, c'est Stéphane Thébault. Dans les belles maisons que je visite, le volet roulant est une option confort indéniable. Avec Bubendorf, la référence du volet roulant, faites votre chiffrage en ligne en toute transparence. 599 euros le volet roulant solaire Bubendorf, pose comprise et quelle que soit sa dimension, c'est facile.
Prix TTC posé conseillé des trois solutions solaires achetées, conditions intégrales de l'offre et installateur sur solar.bubendorf.com.
Les 17 et 18 novembre se tiendra à Bourganeuf, hall Rochon-Mazera, le premier salon de l'artisanat local. Métier du bâtiment et travaux publics, métier d'art et métier de bouche. Venez découvrir des artisans impliqués qui ont décidé de s'investir localement et qui participent à faire vivre le territoire. Ils vous feront partager leur métier passion. Que vous souhaitiez construire, rénover, améliorer, aménager ou décorer. Du projet à la crémaillère, vous repartirez avec des idées, des envies, des contacts et de bons produits locaux. Restauration sur place, entrée gratuite.
France Bleu Creuse.
France Bleu.
J'ai vu la fin souvent, j'ai vu les portes se fermer. Tant j'ai de mal à te cerner.
Ta mélancolie en ces dimanches passés affalés.
J'ai vu des tonnes de paires de jambes à l'envers. Crois-moi, je te jure, c'est les tiennes que je préfère.
T'étais détestable de rester agréable. Et j'étais sûr que j'étais
doux. Et j'étais tout sauf ça. J'ai cru que ce serait facile du côté tactile. Grâce à toi j'ai compris le sens du mot touride. Et juste pour ça. Oh my sweet darling.
de la Vega sur France Bleu Creuse.
Dossier du jour, avec granit et marbre mourillé, tout pour le cimetière. Fabricant depuis 1860. Exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourillé.fr.
Un dossier presque tout en coulisses ce matin avec Agnès Zeppa, déléguée aux droits des femmes et à l'égalité, Bruno Sauvage, procureur de la République, et monsieur le procureur, je vais vous demander un complément d'information par suite au message que nous avons eu tout à l'heure sur cette personne qui a été violentée par son mari. Ils sont réellement mariés, elle est partie suite à une menace de mort, elle est hébergée dans un hôtel depuis 2 mois. Le logement appartenait bien à tous les deux. Pourquoi c'est lui qui est resté au domicile? Alors, en sachant que madame n'a pas de revenus et que c'est lui qui paye.
Alors, c'est pas pour me défausser, mais chaque dossier est différent. Je vous ai dit tout à l'heure, la majeure partie des cas, c'est le conjoint violent qui est évincé du logement. Donc, le cas que vous m'évoquez, hein, je ne sais même pas s'il y a une réponse pénale. Peut-être qu'il y a eu effectivement un classement de l'affaire, parce que ce que j'ai rappelé tout à l'heure, peut-être parole de l'un contre l'autre, pas de témoignage. Et dans ces cas-là, même s'il n'y a pas de plainte, nous, généralement, on met en relation avec les associations pour trouver un logement. S'il y a eu une réponse pénale, ben dans ces cas-là, ben madame, si elle a des doutes, elle peut m'appeler au tribunal et au parquet en disant son affaire, je pourrais la ressortir. Mais encore une fois, je ne sais même pas s'il y a eu une plainte, je ne sais même pas s'il y a eu une réponse pénale, s'il y a eu un contrôle judiciaire, ce qui a été décidé. Je comprends qu'elle soit effectivement un peu gênée de parler en direct, mais elle peut téléphoner au parquet et sans difficulté, je la prendrai, je répondrai à ses questions ou ses interrogations en fonction des éléments, s'ils sont judiciaires ou non. Et ça, je n'en sais rien aujourd'hui.
Voilà. C'est votre réponse. Je sais que vous êtes à l'écoute de France Bleu Creuse et de la réponse de Bruno Sauvage. Passez un coup de fil, ne restez pas avec des questions, des interrogations. Agnès Zeppa, sensibiliser et puis faire comprendre aussi à ces personnes victimes de violences conjugales qu'elles et ils ne sont pas tout seuls. Vous avez des rendez-vous qui s'annoncent.
Oui, absolument. Donc, dans le cadre de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes qui a lieu le 25 novembre, c'est une journée mondiale, on organise effectivement des événements qui visent à la fois à former les professionnels et puis à sensibiliser le grand public. Donc le jeudi 23 novembre, on a un temps plutôt dédié aux professionnels. On a un ciné-débat qui est organisé, donc autour du film Jusqu'à la garde, qui met en scène en fait une situation de violence avec la question aussi de l'enfant témoin qu'on appelle aujourd'hui enfant co-victime. Voilà, que se passe-t-il pour l'enfant lorsqu'il y a justement ces violences conjugales? Ça sera l'objet de ce ciné-débat qui a lieu donc vendredi prochain, pardon.
Journée de sensibilisation grand public le 24 novembre.
Alors le 24, voilà, le samedi 24 novembre au gymnase Grancher est organisé donc en partenariat avec l'UFOLEP une journée informative, sportive, ludique autour de cette question. Alors pourquoi sportive et ludique? Eh bien pour faire venir du public évidemment. Et puis autour de ça, eh bien on apporte de l'information, un village de partenaires, une exposition, des scènes de théâtre, une initiation au yoga, au self-défense, plein d'animations, speed minton, sarbacane, etc. Voilà, ça sera une journée dense et riche pour tout public. Pour hommes et femmes, je précise, bien sûr. Ça ne concerne pas que les femmes, ce genre de journée. Ça concerne bien sûr les hommes.
Exactement. Parlez quelques mots sur ce document qu'on devrait tous et toutes avoir. Il y en a d'ailleurs des exemplaires à votre disposition à France Bleu Creuse.
Oui, alors on vient d'éditer au niveau du département une plaquette qui s'appelle Violence au sein du couple et qui permet de décrire en fait que faut-il faire lorsque on est soit victime, soit témoin de violences conjugales, et puis aussi surtout vers qui se tourner. Et donc là on a toutes les adresses, les numéros de téléphone, des contacts, les associations, les structures qui peuvent apporter leur aide.
Voilà, et ces deux documents, vous pouvez également vous le procurer à France Bleu Creuse. Tout de suite, nous allons accueillir Émilie. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue à vous, Émilie. Nous vous écoutons.
Je vous appelle. J'ai écouté votre émission ce matin et je souhaitais témoigner en tant qu'ex-victime de violences conjugales. J'ai été victime de violences pendant 15 ans. J'ai pu voir une évolution très intéressante au niveau des associations qui sont beaucoup plus présentes maintenant et qui peuvent apporter beaucoup d'aide, beaucoup de soutien. Mais malheureusement,
Prenez votre temps, Émilie. Respirez un bon coup.
Oui.
Prenez votre temps.
Malheureusement, j'ai fait un dépôt de plainte Pas au niveau du parquet de Guéret, hein, mais j'habite pourtant la Creuse. Seulement les violences s'étaient passées dans un autre département. Donc c'est le parquet de Limoges qui a pris ma plainte en compte. Et pratiquement toutes mes plaintes ont été classées sans suite. Mon ex-mari, qui est policier de l'environnement, n'a eu qu'un rappel à la loi. Donc effectivement, il y a de gros soucis dans le traitement des plaintes. Je trouve anormal avec les preuves qu'une victime peut apporter qu'on en arrive à ça.
Bruno Sauvage, quelques mots avec Émilie.
Mais écoutez, tout ce que je peux dire, c'est que c'est pas un dossier qui me concerne. On l'a bien dit, hein, c'est le parquet de Limoges. Et encore une fois, ça aurait pu être en Creuse, parce que je l'ai souligné dès le départ. Madame, vous dites effectivement avoir été victime de 15 ans. Si elles ont été classées sans suite, souvent, je prends la peine, moi, d'écrire aux victimes. Je prends la peine, parfois, de les recevoir. Personnellement, je peux vous dire qu'il y a même des avocats qui m'ont dit, ils ont 22 ans, ils n'ont jamais vu faire ça. Et je les reçois personnellement, je leur explique pourquoi je classe. Parce que ben, dans le dossier, j'ai la parole de l'un, la parole de l'autre, et que j'ai pas d'éléments de preuve suffisants. Dans le cas d'espèce que vous soulignez, il y a quand même eu un rappel à la loi. Je rappellerai juste aux auditeurs, la loi, c'est l'individuation de la peine. C'est-à-dire, c'est en fonction des circonstances de l'infraction, des garanties de réinsertion sociale et professionnelle, et des éléments de personnalité que le parquet apporte une réponse pénale. Ça peut aller d'un rappel à la loi, du plus faible, jusqu'éventuellement un passage en comparution immédiate avec une incarcération derrière. Et je peux vous certifier, voilà, je ne suis pas là pour faire de la pub, loin de là, juste le travail, je peux vous certifier que depuis le début de l'année, il y a pas mal de personnes qui ont été incarcérées dans le département pour des violences conjugales. Et je le rappelle, en un an, j'ai multiplié par 4 les contrôles judiciaires relatifs notamment aux violences conjugales. Donc dans le cas d'espèce, malheureusement, je vous dis oui, il y a des dossiers qui sont classés parce que par faute de preuves, dans votre cas, je ne peux pas le dire parce que je ne l'ai pas traité.
Émilie, où en êtes-vous aujourd'hui ?
Écoutez, il m'a fallu de nombreuses années pour reprendre pied. Les séquelles sont toujours présentes et le seront toujours, malheureusement. Je viens aujourd'hui témoigner comme un coup de gueule vis-à-vis de certains magistrats qui ne prennent pas conscience de la souffrance qu'on peut avoir.
En tous les cas, Émilie, c'est très courageux ce que vous venez de faire.
Eh bien, écoutez, si ça peut aider, voilà, si mon témoignage peut aider, de toute façon, je n'en ai pas fini parce que je n'en resterai pas là. Même si moi, pénalement, tout a été classé, il n'y aura pas de suite. Je souhaite que ces 15 ans de violence ne restent pas sur quelque chose de négatif. Donc, mon expérience, je souhaite la partager. Je suis prête maintenant et je souhaite faire évoluer les mentalités. Voilà, par rapport à ce sujet qui reste malgré tout un petit peu tabou, et je félicite monsieur le procureur de tout ce qu'il peut faire parce que c'est très compliqué à vivre.
Voilà. Agnès Zeppa, effectivement, c'est aussi aller de l'avant la démarche d'Émilie.
Oui, alors vraiment, merci beaucoup à Émilie pour son témoignage, c'est extrêmement courageux. Moi, je donne peut-être à l'antenne mon numéro de téléphone, 05 55 41 55 41, voilà. Si elle souhaite me contacter, puisqu'apparemment elle souhaite aujourd'hui effectuer des démarches, peut-être pour aider d'autres, donc je pourrais la mettre en contact avec des associations.
Émilie, vous avez eu le temps de noter le numéro de téléphone ?
Pas tout à fait, non.
Ah, je m'en doutais. Et Agnès va nous le redire plus calmement.
Alors c'est très simple, c'est 05 55 41 55 41, deux fois le même.
Très bien, mais voilà. Je vous remercie beaucoup
Émilie, c'est nous qui allons vous remercier.
Bonne fin de journée.
Et rapidement, nous allons prendre un dernier appel. Non, alors on nous dit non, c'est pour tout à l'heure. Agnès, Émilie a témoigné. Il faudrait qu'elles soient peut-être encore plus nombreuses et nombreux à le faire.
Oui, absolument. Alors ce que je voulais dire donc à l'occasion de son témoignage, c'est que voilà, justement, il faudrait que à l'avenir on n'ait pas justement ce genre d'expérience qui se retrouve, et donc c'est d'où l'importance justement de préparer son départ, de préparer sa plainte aussi. En fait, toutes les démarches, qu'elles soient au niveau de la justice, mais aussi administrative, etc., c'est très important de pouvoir les préparer. Voilà. Et je voudrais dire justement que sur le plan notamment des plaintes, on peut être accompagné directement parce que ça se prépare aussi. Souvent, les témoignages sont assez compliqués à recueillir. Les histoires de vie sont extrêmement complexes. Donc, c'est très bien de pouvoir le préparer avec une association, l'écrire. le raconter, rebâtir le récit, en fait, refaire le fil du récit de façon à vraiment pouvoir étayer ces éléments. Donc vraiment, j'insiste sur voilà la préparation des choses.
Agnès Zeppa, nous aurons l'occasion de nous retrouver sur cette antenne de France Bleu Creuse. Bruno Sauvage, en guise de conclusion, un message à adresser à toutes ces victimes, peut-être ?
Alors, juste en une ou deux minutes, pour répondre à la dame encore une fois, sincèrement, tous les magistrats sont sensibilisés sur les violences conjugales. C'est une priorité nationale. Maintenant, on travaille avec des faits et des dossiers. Et les dossiers, il faut, un, pour le parquet, rapporter la charge de la preuve. C'est à nous, parquetiers, de rapporter la preuve. Et après, il y a un débat judiciaire avec les différentes parties, avec les avocats. Chacun joue son rôle dans la partie qui les concerne. Et dans le cas d'espèce de madame, il n'y a pas eu un classement. Il y a eu une réponse pénale qui a été apportée. Ça, pour elle, ce n'est pas grand-chose.
Peut-être
c'est
insuffisante, oui.
Pour elle, encore une fois, le dossier, ouais. Je ne le connais pas. C'est un rappel à la loi par OPJ. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un dossier qui a été classé infraction insuffisamment caractérisée. Il y a une réponse pénale qui a été donnée, certes, qui ne la satisfait pas, mais en tout cas, il n'y a pas eu un classement. Juste le mot de la fin. De dire que notre but à tous, en tout cas, moi, au niveau pénal, un, c'est faire cesser l'infraction quand elle est caractérisée, c'est la prévenir, et éventuellement, ça peut aller jusqu'à l'incarcération de la personne qui est auteur en fonction des éléments que j'ai rappelés tout à l'heure, circonstances de l'infraction, garantie de réinsertion sociale et les éléments de personnalité. Il faut quand même le dire à la fin, il y a en France, tous les 2 jours et demi, une personne, homme ou femme, qui meurt sous les coups de son conjoint. On est à peu près à 150 victimes par an. Et encore une fois, effectivement, c'est d'où l'importance de chacun, sur un plan préventif que Mme Zeppa rappelait, et en tout cas, moi, au niveau de la priorité politique pénale. Donc j'espère sensibiliser tout le monde, et après, le mot de la fin, c'est le but, c'est de sauver des vies, sauver des coups, des femmes ou des hommes qui peuvent subir au sein de la sphère familiale. Et il y a tous les dommages collatéraux qu'il faut quand même aussi rappeler. Parce que parfois, il y a des enfants
tout à fait.
Qui sont là, qui assistent, et qui, pour les parents, disent « Ouais, mais il est petit, il ne va pas s'en souvenir », et on s'aperçoit que plus tard, dans son étape, adolescence, etc., ça va laisser des fractures, ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Donc je pense qu'en tant que personne responsable, adulte, parfois, eh ben, il faut prendre conscience qu'on peut se disputer, pas se violenter, ne serait-ce que se disputer, mais pas devant les enfants,
Oui. Parce
que ça laisse des traces. Mmh. Et encore une fois, la plupart du temps, je n'ai pas de chiffres exacts, mais c'est sous fond d'alcoolisation. On l'a dit tout à l'heure, les violences conjugales, de part et d'autre, ou des fois que un, avec de l'alcool derrière. Et en Creuse, c'est vrai que c'est la raison pour laquelle c'est une de mes priorités, parce que malheureusement, on a 350 cas par an, et on a pratiquement 20% d'augmentation, d'où le but de mon intervention aujourd'hui, pour sensibiliser tout le monde. N'hésitez pas à faire les démarches sur un plan judiciaire ou un plan civil.
France Bleu Creuse, le dossier du jour, Josiane Perron.
Nous aurons l'occasion, bien sûr, de revenir sur ce sujet. Un grand merci à vous deux. C'était un petit peu plus compliqué hein, ce matin. Mais nous avons pris en compte tous vos messages et toutes vos demandes en respectant votre anonymat. Moi, je vais finir sur ce dossier en vous rappelant à tous et à toutes que à France Bleu Creuse, mais pas seulement, il y a un document qui s'appelle « Violence au sein du couple » avec toutes les coordonnées des partenaires qui sont prêts à s'engager à vos côtés pour vous aider si vous êtes victime de violences. Il est comme ça, hein, il est sur notre banque d'accueil. Vous pouvez vous servir comme vous voulez.